Bonjour à tous. Pour cette 7e émission, nous avons demandé à quelques auteurs de la région d'évoquer leur quotidien, de nous faire partager leurs réflexions sur ce moment de vie exceptionnel qui aura ou non une influence sur leurs écrits futurs. Nous allons voyager de la région nantaise à la Thaïlande et au nord de la Bretagne. Nous remercions pour leur libre participation Nikita Daguerre, Célia Coutan, Gwenaëlle Moulec-Lethérisien et Yann Serré.
Comme le dit le dicton, en mai, fais ce qu'il te...
Et non !
Ah bah non, c'est vrai. En mai, prépare ce qu'il te plaît.
Et vous allez voir qu'il y a de l'idée.
Et de la fraîche.
Je m'appelle Célia Coutan, j'ai 29 ans et je suis autrice.
Et moi, Nikita Daguerre, 26 ans, illustrateur et enseignant en art visuel. Nous avons découvert Radio Alternante lors de l'émission Bouquins en Bretagne, dans laquelle nous présentions notre livre auto-édité « Les gardiens de la Terre ».
Et d'ailleurs, on remercie au passage Daniel de nous inviter à nouveau à partager sur Radio Alternante.
Et on revient cette fois-ci pour vous parler, en cette période un peu spéciale de coronavirus, Covid-19, de confinement surtout, de notre expérience, de notre ressenti en tant que créateur, en tant qu'auteur.
Et pour certains, le confinement, c'est ça.
Et pour d'autres, c'est ça.
Pour nous, on prend les choses de manière positive. C'est vrai qu'on ne peut pas sortir, les parcs sont fermés, on ne peut pas profiter de la mer qui est à peine à 40 minutes de chez nous. Mais en fait, on profite de notre terrasse et on a profité pour planter des graines, pour jardiner. On profite un peu de la verdure qu'on a sur le balcon. Et voilà, ça fait du bien au moral. Et on joue en fait un peu au gardien de la terre nous-mêmes.
Et c'est ô combien plus simple quand tout est calme autour. Ça fait quand même quelques semaines qu'on a vraiment quasi plus de circulation à Saint-Sébastien-sur-Loire. Et donc là, ça fait du bien aux oreilles, ça fait du bien aux poumons aussi, je pense. Hein. Et puis au final, c'est pas si dur que ça, je trouve quand même, d'être perché sur sa petite terrasse. Bon, s'il a une vue pas trop moche, sans bruit, un bon soleil.
Il y a aussi le changement de rythme. Donc moi, en plus de mon travail d'écriture, donc en tant qu'autrice, je travaille également à côté à la Chambre des métiers de l'artisanat en tant que chargée de développement des métiers d'art. Donc je suis en télétravail en ce moment, ce qui me laisse en fait plus de temps. J'ai pas les allers-retours en voiture à faire où je perdais 40 minutes dans les bouchons. Donc c'est un tout autre rythme de vie qui s'est installé, un rythme de vie aussi qui est à deux. Donc on réapprend à vivre ensemble.
Mais qui es-tu ? Qui êtes-vous, madame ? Sortez de chez moi.
Voilà, c'est exactement ça. En fait, on réapprend à communiquer, à travailler ensemble, à faire des nouveaux projets.
On retrouve des rêves passés, on dépoussière des idées, on retrouve des projets, et on se rend compte qu'en fait, on a tout le temps pour prévoir tout ça, en fait.
Stop à la procrastination. C'est vrai qu'on on mettait beaucoup de choses de côté, et là, on a le temps de pouvoir se replonger, et puis de recommencer en fait.
Et puis simplement de créer, pour nous c'est une évidence, de partager en fait, tout simplement, c'est aussi ça la création, c'est le partage. Donc c'est du plaisir, c'est que des bonnes ondes, c'est positif. Donc je sais pas, il y a sûrement des personnes qui sont un peu trop perdues dans des violences médiatiques, enfin ce qu'on nous propose médiatiquement, ou des choses qui font peur, des idées qui nous font peur, des idées reçues par rapport des contaminations, en fait tout ce qui va être un petit peu science-fiction et balancé dans les médias comme ça.
Alors nous, on a trouvé la solution. On n'a pas de télé, on regarde pas forcément les informations, on se gaffe pas de choses négatives.
Enfin, le minimum quoi.
Voilà, le minimum pour rester au courant.
Vital vraiment.
Mais pas pour devenir en fait complètement zinzin entre guillemets et voir les choses tout en noir.
Sinon, il faut savoir aussi qu'à la maison, on a ouvert un atelier, donc atelier à domicile, où j'enseigne les arts graphiques et visuels et plastiques, donc tout ce qui est dessin, peinture, création numérique, même vidéo, même 3D. Voilà, c'est assez récent, mais je fais ça aussi. Donc là, forcément, en ce moment, j'ai plus d'élèves. Ça fait bon, quelques semaines du coup, hein, forcément, que j'ai
Presque un
plus
mois et
un
quelques.
mois. Ok, bah voilà, ça fait un mois et bah, j'ai quand même des petits contacts des élèves et je leur conseille de continuer à créer, alors dessiner, savoir faire ce qu'ils font d'habitude, ce qu'ils aiment faire, mais aussi s'ouvrir à nouvelles pratiques. Par exemple, la photo, la vidéo, hein. Il faut même pas plus qu'un smartphone pour faire une vidéo, ou le jardinage, ou que sais-je, la cuisine. Enfin voilà, vraiment, c'est le moment où jamais de retrouver les passions ou de découvrir de nouvelles choses. Voilà, c'est moi-même, je me suis remis à la guitare, ma compagne, donc Célia, bah, s'est remise au piano.
Ça fait du bien.
Ouais. Ça libère. Ouais, surtout qu'en plus, du coup, on fait carrément des sacrés concerts, on se met à chanter, bon, c'est la folie à la porte.
Je ne sais pas si les voisins sont aussi contents.
Oh, ça la déconfine un petit peu, du coup.
On essaye de partager avec eux.
Voilà. Voilà.
Alors, c'est vrai que moi, je profite aussi de ce temps de confinement pour replonger un peu dans mes rêves, plus précisément pour noter mes rêves. C'est une habitude que j'avais prise il y a quelques temps et que j'ai perdue. Donc là, le matin, on a le temps de se lever, de repenser à nos rêves, de les écrire. Et c'est plutôt pas mal, parce que moi, c'est une grande source d'inspiration pour l'écriture. Donc voilà, on prend le temps de se replonger un peu dedans, de faire des tests. La légende du Mélogue. En des temps passés, hommes, femmes et enfants rendaient hommage à un gardien issu de la terre elle-même. On l'appelait Mélogue. Les gardiens de la terre. Tome 1, le Mélogue et la turquoise magique. En résumé, c'est l'histoire de deux enfants, Aya et Eden, qui à travers leur aventure vont rencontrer des personnages hauts en couleur et ainsi recréer un lien qui avait été autrefois brisé entre la terre et les hommes. Une sous-histoire. Ces deux enfants vont également trouver une pierre, une turquoise magique, qui va leur permettre de gagner confiance en eux. Mais leur confiance provient-elle vraiment de cette pierre?
On va se laisser sur cette petite lucarne d'imaginaire. Merci à toi, Célia.
Et merci à vous de nous avoir écoutés.
C'était un plaisir de vous partager notre expérience. En tout cas, n'oubliez pas, partagez, apprenez, découvrez. Encore 10 jours de temps libre forcé. Oh là là, ça va être dur.
Et vous pouvez également retrouver le livre des Gardiens de la Terre sur le site de Nikita Daguerre, nikitadaguerre.com, dans l'onglet boutique. Et nous, on vous dit à bientôt.
Ouais, salut!
Salut! Bonjour à tous. Alors, quelques nouvelles de notre confinement ici. Donc, c'est un sentiment assez étrange parce que tout bascule du jour au lendemain. On vit déjà actuellement une situation assez particulière parce qu'on vit sur une île thaïlandaise pour 6 mois. On est déjà éloigné de nos proches. Donc, finalement, c'était déjà un confinement involontaire. Il y avait déjà la présence du virus en Asie dès le mois de janvier, avec la Chine qui apporte beaucoup au niveau du tourisme ici et de l'industrie. Donc du coup, tout d'un coup, il y avait plus du tout de touristes chinois. Ils ont déserté le royaume dû à la pandémie chez eux. Et du coup, nos proches étaient assez inquiets de la présence de l'épidémie ici, alors que l'Europe n'était pas touchée. Après, voilà, on voyait que la situation n'évoluait pas vraiment. Ça avait l'air assez sous contrôle, sauf que les plages étaient désertes à cause de la désertion des Chinois et puis des Occidentaux du coup qui ne venaient presque plus ici. Et puis à la mi-mars, tout a changé. En même temps que l'Europe, en même temps que la France, on voit le pays fermer en quelques jours, bloquer les avions, établir des couvre-feux, des quarantaines, et c'est un petit peu la panique. À ce moment-là, on se pose vraiment la question de rentrer quand on entend
des choses contradictoires, tout est très alarmant, ça va assez vite, et puis on est inquiet aussi pour nos familles, s'il se passait quelque chose, du coup on est vraiment loin, on est inquiet un peu pour la situation ici, nos visas business ils sont pas encore validés, parce que pour ça il aurait fallu ressortir du pays la semaine d'après pour les valider depuis une ambassade étrangère, or bah tout est désormais fermé, et nos permis de séjour ne vont que jusqu'à mars. On a peur aussi qu'il n'y ait plus de vols vers la France pendant des mois alors qu'on a prévu de rentrer en juillet. On est aussi inquiet pour l'approvisionnement de Lille parce que voilà, on est suspendu aux livraisons des bateaux. Est-ce que ça va continuer? Et puis il y a aussi les conditions des hospitalisations si on venait à être malade. Donc voilà, il y a un petit peu tout ça dans nos têtes. En 2-3 jours, on en parle beaucoup tous les quatre avec mon mari et les enfants, savoir ce qu'on fait, en sachant que bah voilà, ici les enfants sont toujours scolarisés, ils ont des séances en visio avec leurs profs plusieurs fois par jour, donc ça maintient quand même un rythme assez important. Et puis on a un petit peu peur de traverser la planète dans ces conditions. Et puis bah en France, on a là pour l'instant, on n'a plus de logement, toutes les affaires sont dans des cartons dans un garde-meuble, donc c'est un petit peu précipité et on se dit bon bah on n'est pas si mal ici, nos familles nous enjoignent de rester et en disant vous inquiétez pas, vous êtes mieux là où vous êtes, pour nous ça va aller. Donc on décide de rester, puis l'aéroport de Koh Samui ferme à ce moment-là et il n'y a plus que quelques jours, plus que quelques ferries par jour pour le continent. Donc on se dit bon bah là c'est voilà, on a pris la décision maintenant. On n'a plus le choix. Et puis bon, finalement, les semaines passent et puis on prend un peu le rythme de ce quotidien un peu spécial. Il y a les cours des enfants, les courses, voilà, le petit rythme quotidien. Et on voit que qu'il n'y a pas une augmentation de cas, que tout le monde ne sort qu'avec des masques et que la situation est sous contrôle parce que du coup, l'île est en quarantaine et ça a été pris à temps. Et donc, il n'y a pas de confinement. Donc, on peut sortir quand on veut. Donc, ça, c'est quand même assez génial. On profite de ce luxe. On va faire des balades tous les fins d'après-midi le long des plages. Il y a des magnifiques couchers de soleil. Et voilà, on voit personne et tout est fermé. Et c'est assez triste. C'est une ambiance un peu fin du monde, mais on a quand même cette chance de voir cette nature magnifique et ça déjà c'est pas si mal. Donc voilà, là c'est un mois et demi plus tard, on arrive un petit peu à la fin de la période critique, on va dire. On est rassuré pour nos proches en Bretagne qui a été une région relativement épargnée, et puis bon ici du coup ça n'a pas décollé, donc il y a plus un seul cas depuis 15 jours, donc l'ambiance qui était quand même assez pesante semble légèrement se détendre. Alors, il faut savoir que c'est vraiment dur quand même pour les Thaïs parce qu'ils vivent pour beaucoup de petits boulots au jour le jour et ils ont pas du tout d'économie et cette crise est terrible pour eux parce que on voit des gens pas plus loin qu'au bout de notre rue mettre en vente des vêtements pour quelques bahts, se lancer dans la vente de jus de fruits ou de brochettes devant chez eux pour essayer de faire un tout petit peu d'argent et parce que tout dépend de l'économie touristique qui est complètement à terre et sans les touristes voilà plus d'argent. Donc il y a des collègues qui sont en train de s'organiser parmi les résidents européens. On est plusieurs milliers dans les environs, c'est une région assez prisée pour les expatriés. Et donc il y a des distributions de nourriture qui se mettent en place plusieurs fois par semaine et il y a des longues files de gens qui viennent, donc c'est que voilà, il y a vraiment des besoins. Alors les takeaways fonctionnent toujours, c'est des petits marchands ambulants des rues qu'on essaye de faire marcher en allant acheter nos repas là-bas le soir. Une portion c'est 2 €, donc on va dire pourquoi s'en priver parce que c'est vraiment délicieux la cuisine thaï. Mais bon voilà, il est temps que les entreprises rouvrent, beaucoup de personnes sont vraiment sur les genoux financièrement, dont aussi des occidentaux qui ont beaucoup des commerces, des restos, des hôtels, tout ça, qui c'est vraiment compliqué. Et puis voilà, les gens craignent maintenant davantage la banqueroute et la famine que le virus quoi. Donc alors d'ici ce week-end on a eu des nouvelles directives, les commerces pourraient partiellement rouvrir, il y aura un premier pas là pour que l'île sorte un peu de sa torpeur et il reste nous 2 mois ici. Et on compte en profiter au maximum. Nos plans ont été un peu chamboulés parce qu'on pensait pouvoir aller plus visiter. On devait aller à Bali, à Koh Tao, à côté, faire de la plongée, plein de choses géniales comme ça qu'on n'aura plus l'occasion de faire si on rentre cet été. Mais on s'estime quand même vraiment privilégié d'avoir passé le confinement dans des conditions comme ça. Alors sur la période qu'on vit et puis sur le regard porté sur l'avenir, je dirais que moi qui suis assez adepte des romans à caractère dystopique et des histoires post-apocalyptiques, ce scénario actuel, il paraît presque trop hollywoodien pour être vrai. Il y a un moment où tu te demandes, comme tout le monde, si tout ça est bien réel. Et puis, bah oui, voilà, il y a la phase d'acceptation qui est un peu plus longue. Et je pense vraiment qu'il y aura un avant et un après. Et j'aimerais pouvoir dire que j'espère que ça va faire changer les hommes et leurs priorités. Et tout. Vraiment, mais j'entends beaucoup de souhaits là sur une révolution. Et mais bon, soyons honnêtes, bah ça risque pas vraiment d'arriver comme ça parce que ça serait non, c'est pas envisageable. Par contre, oui, une prise de conscience, oui, une prise de conscience de la fragilité du système, de nos vies. Oui, alors peut-être que ça suffira quand même déjà à changer pas mal de choses. Après que on change entièrement notre mode de consommation, notre façon de penser, c'est un peu trop utopique. Mais bon, voilà, il faut y croire, faut penser que ça peut être quand même un signal d'alarme pour réfléchir sur plein de choses. Ce que je crains par contre quand même, c'est un repli national un peu partout dans le monde, qui était une tendance qui avait déjà commencé à prévaloir dans certaines zones. Et la peur de l'autre, la peur de l'étranger. J'ai été en Inde il y a 3 mois. C'est un pays magnifique et voilà, accueillant. Les gens sourient tout le temps. Et quand j'ai lu de récents témoignages sur des agressions de Français coincés là-bas au début du confinement, ça m'a fait peur parce que ils étaient accusés par des foules en colère d'avoir diffusé le virus et tout peut basculer très vite et je pense qu'on sortira pas grandi de cette crise en restant chacun de son côté, mais en coopérant entre nations, même si ça paraît un peu trop optimiste de penser à ça. Je pense qu'il y aura d'autres crises dans l'avenir proche et que c'est que en unissant les forces entre les pays et pas en se repliant qu'on arrivera à surmonter tout ça. Alors sur mon travail d'auteur, le confinement aura des répercussions. Car déjà, j'ai plus le temps d'écrire, donc ça c'est cool. Le temps s'est un peu arrêté, la montre aussi, et j'arrive à prendre des moments, pour écrire des notes. J'essaye de composer des haïkus chaque jour parce que je trouve qu'en quelques syllabes, ça permet d'exprimer un état d'esprit. Et j'avance sur mon nouveau roman aussi, qui se passe dans les monts d'Arrée. C'est une communauté qui vit plus ou moins en autarcie. Alors là, on est dans le thème du moment, mais c'était un scénario que j'avais en tête depuis plus d'un an et demi, et qui a mûri tranquillement, donc j'espère pouvoir le finir d'ici mon retour en France. Et je me disais hier que le seul problème avec le scénario catastrophe actuel, c'est que les romans d'anticipation qui ont tant de succès depuis ces dernières années, qui rivalisent d'invention pour de possibles futurs qui déraillent, finalement là ils vont plus paraître si originaux que ça, et il faudra probablement que le genre s'en réinvente, mais bon, c'est un challenge.
Comment vivez-vous ce confinement ? Eh bien, pour ma part, ça ne change pas vraiment mon mode de vie habituel, puisque je vis beaucoup dans l'introspection et dans le travail sur moi-même. Donc, être confiné, ça n'a pas énormément changé mon mode de vie, qui est basé essentiellement sur l'écriture, la lecture, le travail d'introspection, la méditation. Je n'ai fait qu'accentuer en fait ces composantes de ma vie depuis un mois que nous est proposé et imposé ce confinement. J'étais venu à deux reprises sur la radio pour vous partager mes voyages en solitaire dans le haut Himalaya. Alors forcément la différence majeure avec mon mode de vie habituel, c'est cette impossibilité de voyager, de pouvoir parcourir le monde ou parcourir la France tout simplement. Donc pas de voyage extérieur depuis le début de ce confinement, mais néanmoins beaucoup de voyages intérieurs, et ils sont tout aussi importants que les voyages extérieurs, si ce n'est peut-être même plus important. C'est le voyage intérieur, c'est vraiment quelque chose de particulièrement important à mes yeux. Donc je vis assez bien ce confinement, j'ai cette chance de le vivre même très bien. La deuxième question que Daniel nous a posée est donc celle-ci. Quel regard portez-vous sur cette période exceptionnelle et comment voyez-vous l'avenir ? Eh bien, d'abord, en effet, c'est une période exceptionnelle, ça on peut vraiment le dire. C'est la première fois depuis l'avènement de l'ère industrielle qu'une société complète, la planète entière, quasiment entière, est stoppée. Donc c'est vraiment en effet une période tout à fait exceptionnelle. Alors, en premier lieu, évidemment, j'aurais une pensée pour tous les gens qui ont été malades ou qui sont malades de ce virus actuellement, en leur souhaitant le plus prompt rétablissement que possible. Et puis, évidemment, mes pensées vont aussi vers les familles de ceux qui sont endeuillés par ce virus, quand ils ont perdu un membre de leur famille. Évidemment, c'est absolument terrible. Pour les bien portants, eh bien, j'y vois vraiment une occasion exceptionnelle dans le sens où elle offre une magnifique possibilité à s'interroger sur la nécessité de notre travail. Voilà, c'est une notion pour moi sur laquelle je travaille depuis de nombreuses années, cette fameuse notion du boulot, du travail auquel on va tous les jours, 5 jours par semaine, de l'âge grosso modo de 20 ans à maintenant quasiment 65 ans. Donc on a 40 ans de travail et là d'un seul coup, ce confinement, il arrête le travail pour l'ultra majorité d'entre nous. Plus de travail, on reste à la maison et on attend. Donc j'espère vraiment que cette période exceptionnelle permettra à tout un chacun de s'interroger sur la profonde utilité de son travail. Est-ce que le travail que l'on fait donc pendant 40 ans de sa vie, 8 heures par jour, a vraiment une utilité publique? S'interroger vraiment sur l'utilité qu'il peut apporter, non pas que à soi, mais à l'ensemble de la société et aux autres en général. Une interrogation donc sur le temps qu'on y passe, qui me paraît encore extrêmement long, même si il a réduit ces dernières années. Il me semble que le temps de travail est encore beaucoup, beaucoup trop long, qu'on passe beaucoup de temps, beaucoup trop de temps au travail pour y aller, pour en revenir et sur place, quand on n'est pas en plus mentalement encore à son travail, quand on n'y est plus, dû à des problématiques qu'on a souvent dans ce boulot. Donc, ce qui est très bien avec ce confinement, c'est que ça peut permettre de se poser toutes ces questions justes. Et puis aussi peut-être de prendre conscience que tout ce temps passé au travail, toutes ces années, eh bien, c'est aussi un abandon à nos véritables vies au détriment eh ben, de valeurs telles que l'amitié, le partage ou l'amour, la famille. Voilà, donc peut-être aussi que ce confinement aura permis à chacun d'entre nous de nous interroger sur nos priorités vitales. Qu'est-ce qui est vraiment le plus important dans notre vie? Est-ce que c'est vraiment d'aller travailler du lundi matin au vendredi soir, tous les jours pendant 8 heures et pendant toute une vie? Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus importantes encore et beaucoup plus importantes que celles-là, comme eh bien, profiter de la vie, savoir ce qu'on est venu faire ici-bas, donc s'introspecter, c'est ce que je fais lors de ce confinement. Voilà, donc je pense que cette période exceptionnelle, elle permet vraiment toutes ces questions. Peut-être aussi une question essentielle sur la folie de notre société. Et je crois que le fait qu'on soit tous enfermés chez nous à ne plus travailler, eh bien, ça montre aussi combien ce système qu'on nous vend depuis le début de l'ère industrielle comme quelque chose d'extraordinaire et d'incontournable, eh bien, on peut voir là, sous nos yeux, combien cette société et ce système est beaucoup, beaucoup plus fragile qu'il n'a voulu nous le faire croire depuis plus de 100 ans, qu'il repose et qu'il est construit sur des sables mouvants et qu'il peut s'écrouler à tout instant. Voilà, et donc finalement, c'est pas lui le plus important, c'est pas ça qui compte le plus dans nos vies, et c'est ce que je vous disais juste avant. Il y a des choses sans doute beaucoup plus importantes que ce système en lui-même. On y voit le rôle énorme des multinationales qui tiennent les rênes, et aussi bien financières que maintenant morales. Et donc, je pense vraiment que cette période de confinement nous permet un questionnement en profondeur sur toutes ces réalités et savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment faire de nos vies et recentrer les priorités qui sont les nôtres. Voilà. Je répondrai ensuite à la dernière question que Daniel nous a posée et qui est celle-ci. Ce confinement aura-t-il une répercussion sur votre travail d'auteur? Oui et non, pas vraiment parce que je vais continuer à travailler comme je l'ai fait jusqu'ici, à écrire, à voyager, à essayer de partager une vision du monde qui sera beaucoup, qui est beaucoup plus basée sur le partage entre tous les êtres humains de ce que la Terre nous offre. Donc voilà, ça me paraît vraiment être essentiel. Donc s'il y a répercussions sur mon travail, ça sera de me consacrer encore plus et de me concentrer encore plus sur l'essentiel, à savoir aimer la Terre, parce que c'est elle qui nous a donné la vie et c'est elle qui nous offre au quotidien tout ce dont nous jouissons chacun. Et donc beaucoup plus, encore plus se concentrer là-dessus. Et donc j'invite tout à chacun à prendre vraiment conscience de ça, que c'est ça le plus important en fait. Et en dernier lieu, je crois qu'il faut aussi qu'on apprenne décidément et durablement à partager équitablement l'ensemble des fruits que la Terre nous donne sans aucune distinction. On voit bien notre dépendance immense à tous ces pays d'Asie qui produisent et qui surproduisent tous nos produits de consommation quotidienne en travaillant encore eux bien plus que nous et dans des conditions encore bien plus déplorables que nous et des heures encore bien plus innombrables que les nôtres. Pour la plupart, ils sont même réduits en esclavage, on peut le dire. Donc espérons que ce confinement aussi aura permis ça, de se poser la question de notre autonomie, de la répartition des richesses et du fait que, de l'autre côté du monde, en Chine, dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, en Afrique, il y a aussi des gens qui n'ont rien et qui ont aussi des rêves. Et donc il serait important qu'on puisse penser à eux plus souvent maintenant et qu'ils puissent eux aussi profiter de ce que la vie nous offre à nous occidentaux. Voilà. Donc juste avant ce confinement, ma compagne et moi, nous étions déjà dans la recherche d'une autonomie encore plus grande. Donc à la sortie de ce confinement, la première chose qui va changer, c'est que nous allons concrétiser le rêve d'être encore plus autonome, encore plus indépendant, en cultivant la terre. Donc voilà, en achetant une maison qui a déjà un verger et un potager, et nous consacrer à l'essentiel. Et ce qui nous paraît donc essentiel, c'est ça, c'est un retour à la terre et la gratitude qu'on doit à la terre. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir accordé un petit peu de temps, et puis je souhaite que chacun d'entre nous donc puisse reprendre son pouvoir de créateur incarné et d'être spirituel, parce que je crois vraiment que c'est ça que nous sommes venus faire en premier lieu sur cette planète. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous, et à très bientôt.